Studio Tamani, voici les informations en français.
Il est 8 heures entre Bamba et Gourmararousse au nord du pays et c'est exactement la même heure sur l'ensemble de nos radios partenaires. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la synthèse de l'actualité matinale. Voici les titres. Des rescapés de l'attaque contre le bateau Tumbutu sont à Rarousse. Dans un communiqué de la Comanav, une équipe a été constituée sur place afin de collecter des données. Aucun Malien ne figure parmi les victimes du séisme survenu au Maroc. C'est ce qu'indique le président des Maliens résidant au Maroc. Le témoignage d'un étudiant malien sur ce drame qui a fait plus de 2000 morts dans ce journal. Commémoration dimanche de la Journée mondiale de prévention du suicide. Elle intervient dans un contexte où le taux de suicide augmente à Bamako. Des spécialistes l'expliquent par plusieurs facteurs. Au micro, Mariam Maïga, la mise en onde est assurée par Mamadi Keïta. 4 jours après l'attaque contre le bateau Tumbutu, la recherche des rescapés se poursuit. Environ 382 personnes, à l'exception des éléments de l'escorte maintenus sur les lieux du sinistre, sont arrivées à Rarousse. C'est ce qu'indique la Comanav, compagnie malienne de navigation fluviale, dans un communiqué publié ce week-end. Selon la note, un compte-rendu fidèle de la situation se fera au fur et à mesure. Mahaman Babakunta.
Selon le communiqué, une équipe du personnel de la Comanav a été déployée sur le terrain. Cette équipe travaille en collaboration avec la commission d'accueil des rescapés à Rarousse et une ONG sur place. L'objectif est de collecter des données qui serviront la Comanav pour des fins de rapports fiables. À Gao, le gouverneur de la région et certaines associations étaient au chevet des blessés. Une enveloppe a été remise aux responsables de l'hôpital pour les familles des victimes. Au même moment, dans une note, l'exécutif régional a interdit la circulation des véhicules non immatriculés, des véhicules Land Cruiser et des véhicules teintés entre les villes, villages ou hameaux. Notons que selon un bilan fourni par le gouvernement, au moins 49 civils et 15 militaires ont trouvé la mort au cours de l'attaque. Le communiqué précise également qu'une cinquantaine de terroristes ont été tués et que les ratissages continuent dans la zone.
Un compte-rendu signé Mahaman Babakunta. S'agissant du blocus sur certaines localités du Nord, le chef d'état-major général des armées affirme qu'il est relatif et que les forces armées maliennes mènent ces patrouilles sans problème. Le général de division Omar Diarra invite la population à garder le calme. Il est au micro de nos confrères de l'ORTM.
Parler de blocus, c'est trop dire. Hein. Moi, je dis, il n'y a pas de blocus, il n'y a pas d'étouffement d'une localité ou d'une autre. Il est évident que les groupes armés terroristes sont complètement désorganisés aujourd'hui et cherchent à se faire entendre. Donc, un climat de psychose qui est là. Donc, les simulacres de blocus qui sont passés par là. Pour justifier ce que j'ai dit, actuellement, les FAMA patrouillent entre Ber et Tombouctou sans problème. Donc, tous les mouvements sur cet axe. Les FAMA patrouillent aujourd'hui entre Tombouctou et Goundam, donc jusqu'à Niafunké, sans problème. De temps en temps, on fait des checkpoints. Il y a des commerçants, voilà, des passagers qui passent par-ci, par-là. Mais donc, toute demande d'escompte, là, les femmes sont là vraiment au profit des populations. Donc, ces questions de blocus, c'est vraiment relatif.
N'hésitez pas à faire un tour sur notre page Facebook ou encore sur Twitter. Vos critiques et suggestions sont les bienvenues. Dans un communiqué, le cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement appelle la population civile à s'éloigner au maximum des installations, mouvements et activités militaires. Le CSP, tout en désignant les autorités de la transition comme ceux les responsables de conséquences graves qu'engendrera sa stratégie actuelle à rompre le cessez-le-feu, déclare adopter dorénavant toute mesure de légitime défense contre les forces armées maliennes. Sur un tout autre sujet, parlant toujours de sécurité, excusez-moi, au centre et au nord du pays, des populations se disent préoccupées de la situation sécuritaire. Dans le cercle de Bankass, le village de Gomosagou a été attaqué vendredi dernier par des hommes armés non identifiés. Au même moment, à Massina, des sources locales affirment que des pirogues sont harcelées par des individus armés. Le point avec Moussa Agmahaha.
C'est aux environs de 16h vendredi que des hommes armés non identifiés se sont introduits à Gomosagou dans la commune de Lesagou, dans le cercle de Bankass. Le bilan fait état de 4 morts, 3 blessés et 2 disparus. Selon les sources locales, l'attaque a été repoussée par les villageois. Les forces de défense se sont dépêchées sur les lieux pour un ratissage de la zone. À Massina, dans la région de Ségou, la situation sécuritaire est préoccupante. Selon des populations, elles indiquent qu'entre Ténénkou et Massina, les usagers du fleuve, les pirogues et les pinassiers subissent à longueur de journée un harcèlement des hommes armés non identifiés. Par ailleurs, dans une note de l'armée malienne sur Facebook, un incident aérien s'est produit samedi au nord de Gao impliquant un aéronef de l'armée de l'air malienne, sans plus de précision.
Parlons à présent de ce drame qui s'est déroulé dans le royaume chérifien. Plus de 2000 morts, autant de blessés. C'est le bilan provisoire du séisme survenu dans la nuit de vendredi à samedi au Maroc. C'est ce qui ressort d'un communiqué du ministère de l'Intérieur du Maroc. Selon le président des Maliens résidant au Maroc, aucun Malien ne figure parmi les victimes pour le moment. Ishaka Traoré est un étudiant malien résident à Marrakech. Joint par Aboakrine Ag Mohamedine Yattara, il nous explique comment il a vécu ce drame.
Vendredi soir, il était 23h passé déjà, quand soudain je sens une forte vibration. Je me suis levé pour essayer de comprendre et immédiatement devant la porte, il y avait mon colocataire en toute panique. On est sorti pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et au dehors, il y avait pas mal de gens aussi qui couraient pour se mettre à l'abri dans des espaces libres. C'est là qu'on a réalisé qu'on venait de subir un tremblement de terre et par crainte, on est resté au dehors. Quant à l'état d'esprit, jusqu'à présent, on n'a pas ressenti des secousses encore ici à ce niveau, mais on reste tout le temps en alerte. Il y en a qui restent même au dehors, pas peur que ça se reproduise.
Sur un tout autre sujet, augmentation inquiétante du taux de suicide à Bamako. Ces dernières années, au moins 3 personnes ont tenté de se suicider à travers le troisième pont de la capitale. À l'origine de ce phénomène, plusieurs raisons sont évoquées par les spécialistes, telles que le manque de communication dans notre société et les cas de troubles psychiques non pris en charge. C'est dans ce contexte qu'a été célébrée le dimanche 10 septembre la Journée mondiale de prévention du suicide. Écoutons le reportage de Fatoumata Bagayogo.
Se jeter depuis le troisième pont est devenu l'option trouvée par beaucoup d'individus pour mettre fin à leur vie. Plusieurs facteurs psychologiques sont à l'origine de ces tragédies. Les spécialistes citent la dépression et les antécédents familiaux de suicide, entre autres. Emmanuel Kamate, psychologue.
Une maladie psychiatrique, notamment les troubles de l'humeur, une dépression, la maladie bipolaire, la schizophrénie. Ensuite, nous avons l'abus des substances qui peuvent également être des facteurs.
Le phénomène de suicide prend de l'ampleur et il est temps que l'État y réagisse, affirme le sociologue Mbaye Diakité.
Ça devient une habitude, il faudra un contrôle rigoureux, même s'il le faut, un système de contrôle vidéo sur le pont pour pouvoir anticiper ces cas.
La solution psychologique est aussi préconisée par les psychologues. Le psychologue Emmanuel Kamate donne des pistes.
Dès que vous voyez une personne à chaque fois prononcer le mot suicide par rapport à une situation, le mieux serait de lui venir à l'aide. Il faut qu'il s'ouvre aux gens.
Pour prévenir ces cas de suicide, il demande aussi à l'État de mettre en place un service d'urgence, d'écoute et d'orientation psychologique. Il faut aussi noter que le suicide, quelle que soit la raison, il est rejeté par les religions.
On en vient à présent dans notre rubrique « Vérifions ». Une vidéo largement partagée le jeudi passé prétend montrer l'attaque du bateau de la Comanaf qui quittait Gao pour Tombouctou. Fatoumata Koudjou a vérifié pour nous.
La vidéo a circulé dans plusieurs groupes WhatsApp accompagnée du message suivant. La fumée que dégage le bateau attaqué. On peut voir sur les images des gens qui s'agitent autour d'une grande fumée noire. Mais après vérification, nous constatons que la vidéo est sortie de son contexte. Elle ne montre pas le bateau Tombouctou en flammes après l'attaque terroriste qu'il a subie ce jeudi 7 septembre. D'ailleurs, nos recherches ont montré que ces images n'ont rien à voir avec le Mali. Elles ont plutôt été tournées dans la localité de Tiné, province de Wandifoura au Tchad. Nous avons joint Ziller Djirambété, secrétaire de rédaction pour le Jam Post au Tchad. Il affirme que c'est un incendie déclenché dans un dépôt de carburant à Tiné. Selon lui, le drame a causé d'énormes pertes de biens, dont 5 citernes de gasoil et carburant.
Maintenant, place au résumé de l'actualité de la semaine avec Kwan Diarra.
Nous commençons ce résumé par la célébration le jeudi 7 septembre dernier de la Journée internationale de l'heure pure. Le thème retenu est « Ensemble pour une heure pure ». Cette commémoration est intervenue au moment où s'est tenue la clôture du sommet des pays africains sur le climat à Nairobi, au Kenya, avec de fortes recommandations. D'autres nouvelles, au Mali, le taux d'alphabétisation est inférieur à 40% selon une étude de la Direction de l'éducation non formelle et des langues nationales menée en 2018. C'est dans ce contexte que la Journée internationale de l'alphabétisation a été célébrée au Mali le 8 septembre dernier. Dans l'actualité sportive, nous avons la victoire des Aigles du Mali face au Soudan du Sud. Le Mali a battu vendredi dernier le Soudan du Sud par le score de 4-0. Nous terminons par les derniers hommages rendus la semaine dernière à Salif Keïta dit Domingo.
Ainsi prend fin cette édition qui vous a été présentée par Mariam Maïga. La mise en onde est assurée par Mamadi Keïta. Ne décrochez pas car l'info continue. Un esprit sain dans un corps sain, a-t-on l'habitude de dire. Des environnementalistes estiment qu'il est aussi important que ce corps sain soit dans un environnement sain. Ils rappellent qu'un air pollué engendre de graves conséquences sur la santé. C'est pour cela, disent-ils, que la lutte contre la pollution atmosphérique doit être une affaire de tous les pays du monde. À l'occasion de la Journée internationale de l'air pur, célébrée chaque 7 septembre, notre magazine Environnement s'intéresse aujourd'hui à l'état de l'air qui reste les Maliens. Citoyens et acteurs de l'environnement se sont exprimés à travers ce magazine réalisé par Mamadou Samaseko avec l'appui de certains correspondants à l'intérieur du pays.
Kadiatou Dit Chérifa Sataou est environnementaliste. Pour cette spécialiste, les principales raisons d'une pollution sont d'ordre physique, mais aussi humain.
Les facteurs physiques, nous avons entre autres des conditions météorologiques telles que la température de l'air, la stabilité de l'air, la vitesse ainsi que la direction du vent, parce que le vent peut transporter différents polluants à des milliers de kilomètres de distance, ainsi influer la qualité de l'air. Et quant aux facteurs de source humaine, nous avons certaines activités menées par l'homme à savoir les transports, l'urbanisation, les industries, notre mode de consommation d'énergie.
De Bafoulabé à Kadiolo, en passant par Djouila et Bamako, nombreux sont les citoyens qui se plaignent de la pollution de l'atmosphère dans leur localité. Par contre, d'autres Maliens se vantent de l'air pur de leur environnement.
L'air chaud qui vient du septentrion, qui amène les particules, la poussière et toutes sortes de maladies.
Il y a de l'air pur à Djouila car il n'y a pas assez d'engins. Il y a aussi beaucoup d'arbres et l'air circule bien.
Avec la poussière, avec les voitures, la fumée, des anciennes motos, des usines même commencent vraiment à produire beaucoup de gaz et aussi des fumées.
L'air pur nous met à l'aise, tandis que Bamako est borné de monde et danger. Il y a aussi beaucoup de coupures d'électricité.
L'atmosphère n'ayant pas de frontières, des environnementalistes estiment qu'on soit pollueur ou non, on peut subir les effets néfastes de la pollution de l'air. Adama Sambou Sissoko, doctorant en environnement dans le cercle de Bafoulabé.
Il n'y a pas de facteur particulier à notre qu'on peut dire voilà les facteurs qui sont là pour la pollution atmosphérique qui ne puissent pas avoir des impacts ailleurs, vice versa. Nos rues sont remplies de poussière, ce qui est également une des causes de beaucoup de maladies.
Le reboisement est un facteur de protection de l'environnement. Des spécialistes recommandent de lutter contre la coupe abusive des arbres. Sous-lieutenant Boubacar Diamoutene, chef de poste central des eaux et forêts de Djouila.
Beaucoup de gens pensent que les exploitants de charbon, les exploitants de bois de chauffe sont la cause de la disparition des forêts. Certes, ils ont un rôle à jouer là-dedans. L'agriculture actuelle aussi ne favorise pas vraiment le développement des forêts. Tout le monde sait que plus les champs sont grands, plus les forêts diminuent. Alors que Djouila, c'est une grande zone de production agricole.
L'environnementaliste Abdraman Sanogo souligne que le gaz carbonique joue un grand rôle dans la nature d'une atmosphère.
La prolifération de l'asthme, quelques problèmes d'allergie, tout ça est lié à la pollution. Parce que quand c'est pollué, le CO2 doit être capté par des arbres qui sont les puits de stockage de CO2. Et s'il n'y a pas ces arbres, donc le tout part dans la nature et ça bouleverse le climat.
Face à des facteurs liés au développement de nos localités, des spécialistes estiment qu'il faut des mesures préventives pour maintenir la nature saine de l'atmosphère. Capitaine Ali Badra Keïta et Sidi Koulibaly sont respectivement chef contrôlement des eaux et forêts et chef du service assainissement de Kadiolo.
Comme Kadiolo est en voie de développement, dans les jours à venir, il y aura des industries, assez de compagnies de transport, beaucoup d'autres activités rudimentaires qui peuvent faire changer la qualité de l'air à Kadiolo. Donc moi je pense qu'il faut des solutions préventives.
Pour prévenir ces choses-là, avant la construction de ces usines-là, il y a des normes pour ça. Mais chez nous, on vient s'installer seulement et puis on travaille sans appliquer les normes.
Cette célébration a coïncidé avec la campagne nationale de reboisement au Mali. Pour l'occasion, la direction des eaux et forêts a d'ailleurs informé que de janvier à nos jours, plus de 2 millions d'arbres ont été plantés.